Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Alors nous voilà en ce temps béni où le Christ est de nouveau parmi nous. Nous sommes le dimanche de Quasimodo, appelé ainsi car ce sont les deux premiers mots de l'introïte ou in albis, car les néophytes viennent de déposer leurs vêtements blancs, ou encore Pâques close, car c'est en ce jour que s'achève l'octave de Pâques. Mais aussi, depuis quelques années, le dimanche de la miséricorde, instauré par le Saint-Pape Jean-Paul II. Bref, un jour de fête. Alors, en ce jour de fête, malgré tout, Justina, vous nous parlerez de Judas Iscariote.
Oui, bonjour chers auditeurs. Donc, nous sommes le 27 avril, une semaine après Pâques. Et à l'occasion, je le redis, le Christ est ressuscité.
Christ est vraiment ressuscité.
Voilà. Et c'est vrai que j'ai un petit peu hésité à parler de Judas ce jour-là, mais il est quand même en lien direct avec la crucifixion.
Oui. Écoutez, vous allez nous raconter tout ça, mais en deuxième partie, nous aurons Benoît de Florac avec nous, qui évoquera notamment la date de Pâques chez les orthodoxes et les catholiques romains. Cela vous intéressera très certainement, Justina.
Oui.
Alors, parlons de ce fameux Judas.
Eh bien, donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un personnage, j'ose dire, assez détesté dans le christianisme, oui. Judas Iscariote. Le but n'est ni de le justifier, ni de rajouter une couche de haine, mais peut-être d'essayer de comprendre qui il était, ses éventuelles motivations et quel est son problème essentiel. Car peu importe comment nous le percevons, sans Judas, il n'y a pas de crucifixion, et sans la crucifixion, il n'y a pas de résurrection. Et sans la résurrection, il n'y a pas de salut pour nous. Dans la pop culture, il est devenu l'antagoniste parfait, parfois perçu comme un héros, parfois comme une victime. Mais que savons-nous de lui ? Judas est le seul apôtre des douze qui est originaire de la Judée, le royaume du sud, et non de la Galilée, le royaume du nord. Et par conséquent, c'est le seul à faire plutôt bonne impression sur les habitants de la Judée, n'ayant pas cet accent provincial. Il est responsable, puisqu'il a été désigné comme le trésorier de la communauté apostolique. Selon l'évangile de Jean, l'auteur souligne que Judas est cupide, mais aussi indique potentiellement que Judas fait sa comptabilité avec un double fond. Quelles sont ses éventuelles motivations ? L'explication la plus simple consisterait à tout mettre sur son amour de l'argent, mais cela ne tient pas vraiment debout, car même si les 30 deniers sont une somme équivalente à 6 mois de salaire d'un travailleur, si Judas ne trahissait pas le Christ et si sa caisse avait vraiment un double fond, il aurait pu mettre de côté une somme bien plus considérable. Il y a donc une autre raison. Une des pistes à exploiter serait de supposer que Judas Iscariote faisait partie du mouvement des Zélotes, un mouvement populaire à l'époque qui rêvait de rébellion sous la direction du Messie afin de chasser l'occupation romaine et « make Israel great again ». Est-ce que c'est l'entrée à Jérusalem paisible et l'absence d'ambition chez Jésus-Christ de reprendre le pouvoir par un coup d'État qui est à l'origine de la déception de Judas ?
Ça, c'est, on peut voir les choses comme ça.
Oui, peut-être que Judas, en trahissant le Christ, voulait tout simplement le pousser à l'action et ne pensait pas que tout allait se terminer à la croix. En soi, c'est une piste réaliste, mais il y a un gros mais. Dans le récit de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 27, verset 5, Judas cesse ses jours après la condamnation de Jésus sans même assister à la crucifixion. Tandis que si sa motivation était de voir Jésus descendre de la croix et aller casser dur en main, il aurait quand même pris le temps d'attendre. Mais il y a aussi une autre description de la fin de Judas rapportée dans les Actes des Apôtres, écrit par Luc. Je cite « Cet homme ayant acquis en champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Donc le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 18. Et malgré les tentatives de dire que la manière dont il meurt se complète mais ne se contredit pas, techniquement, quand une pendaison a lieu, oui, on perd aussi ses entrailles. Le hic, c'est que selon Matthieu, Judas se répand et rend l'argent. Et selon le récit des Actes, il achète la terre avec cet argent. Donc, soit nous sommes vraiment face à une affaire de cupidité et la fin de Judas nous parle tout simplement du crime et du châtiment, soit il faut suivre la logique de l'évangéliste Matthieu. Dans ce cas-là, la motivation de la trahison reste inconnue, mais laisse de la place au véritable drame. Pourquoi Judas décide-t-il d'en finir sans même attendre les événements de la passion ? D'abord, il revient vers le Sanhédrin en avouant qu'il a commis un crime en donnant un faux témoignage. Les membres du Sanhédrin n'ont rien à faire de son repentir. Le Christ est condamné, l'affaire est bouclée. Et c'est à ce moment-là, Judas rend l'argent et s'en va pour accomplir la suite. Selon la loi de Moïse, un faux témoignage est puni de mort. Donc, Judas ne fait qu'exécuter la punition prévue pour son crime. Et comme il n'y a personne pour le faire, il le fait de lui-même. Et c'est bien cela le drame de Judas. Il n'a pas compris qu'il pouvait obtenir le pardon autrement. Il a été pris au piège par la rigidité de sa pensée. Il n'osait même pas penser venir au pied de la croix et demander pardon, ce qu'il aurait sans doute obtenu. Non, il a préféré se faire justice à lui-même, manquant de confiance en son maître. Pourtant, le Christ a bien dit que tout péché sera pardonné, il suffit de demander. Seulement, le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Mais le blasphème contre l'esprit est tout un autre sujet. Ici, France et les auditeurs seront d'accord, on va en parler un autre jour.
Oui, volontiers. On en parlera une prochaine fois. Merci beaucoup, Justina. Alors, écoutons à présent Vianney pour un chant qui n'a de religieux que son titre, mais qui est quand même de circonstance. Alléluia, chanté lors de la réouverture de Notre-Dame.
D'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 La dame dit, voulez fort garder la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore, et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Alléluia.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Accueillons à présent Benoît de Fleurac. Bonjour Benoît.
Bonjour France.
Vous êtes le co-auteur du livre La force des martyrs dans les écrits de Maria Valtorta, que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, dans notre librairie en ligne sur le site de l'association Marie de Nazareth en tapant mariedenazareth.com et en vous rendant dans l'onglet de la librairie. Alors, nous allons donc parler de l'unité des chrétiens. Nous avons lu ensemble, et je vous remercie, l'encyclique Ut Unum Sint, très intéressante, hein, une encyclique sur l'unité des chrétiens et sur le deuxième concile œcuménique du Vatican. Alors, cette année, la fête de Pâques a été célébrée dimanche dernier, le 20 avril. Alors, c'est vrai que c'était un week-end riche, puisque nous avons très rapidement appris le décès du pape. Et alors, nous avons donc fêté l'alignement des calendriers grégoriens et juliens, une belle occasion pour nous de revenir sur ce thème de l'unité des chrétiens. Alors, pourquoi est-ce que l'unité des chrétiens est si importante?
Les chrétiens divisés amoindrissent le témoignage que Jésus est vraiment le Fils de Dieu venu sauver les hommes. C'est très grave. La division est le résultat de l'action humaine inspirée et encouragée par le diable. C'est ce que déclarait le père Sébastien Sorgue, vicaire de la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris le 19 janvier dernier.
Oui.
Chaque année, depuis 1935, du 18 au 25 janvier, l'Église invite les catholiques à prier pour l'unité des chrétiens. Bien que cette division ait été dans l'histoire source de terribles conflits, cette semaine de l'unité n'est pas une semaine de prière pour la paix, mais un véritable enjeu spirituel dont la source évangélique est la prière sacerdotale de Jésus que l'on trouve en Jean 17-21. « Père, que tous soient un, comme nous sommes un, afin que le monde croie. » L'unité des chrétiens est essentielle pour que le message du Christ soit crédible et ce n'est qu'au prix de l'unité parfaite entre tous les chrétiens que le reste du monde reconnaîtra le vrai Messie en la personne de Jésus, Fils de Dieu.
Oui.
Le décret Unitatis Redintegratio, publié le 21 novembre 1964, commence ainsi. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des objectifs principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. C'est dans ce même esprit que le pape Jean-Paul II donne l'encyclique Ut Unum Sint le 25 mai 1995. On peut y lire que la division des chrétiens est en contradiction avec la vérité qu'ils ont la mission de répandre, le sort de l'évangélisation étant lié au témoignage d'unité donné par l'Église. Jean-Paul II insiste sur le signe de l'unité des chrétiens comme voie et instrument d'évangélisation. Il dit même que c'est une obligation qui découle directement de la fidélité au Christ, pasteur de l'Église.
Oui, cela m'a marqué. Et je rajouterais même qu'après la lecture de cette encyclique, j'ai remarqué que dès son introduction, Jean-Paul II souhaite que nous soyons unis, parce qu'il y a quand même la voix du martyr qui fait que les chrétiens sont forcément unis les uns et les autres, et ils ne peuvent donc pas rester divisés. Et alors, bon, que nous disent les prophètes de l'unité des chrétiens? Parce que très rapidement, on en parle de cette unité.
Tout à fait. À notre époque, Jésus et sa mère réitèrent leur désir de l'unité des chrétiens, comme ils l'ont confié à Myrna Nazour.
Alors, qui est-ce?
Alors, c'est une catholique de rite grec byzantin. Et de 1982 à 2014, à Soufanié, près de Damas, en Syrie, elle a reçu donc, des apparitions de la Vierge et des messages. Le caractère surnaturel de ces apparitions a été reconnu par l'archevêque syrien catholique de Asaké Nisibé le 15 janvier 1987. Jésus s'est également manifesté de 1985 à 2024 à Vasula Riden, qui est décédée en 2024.
Oui, à l'automne.
Exactement. Oui. Elle était grecque orthodoxe et Jésus lui a confié des messages regroupés dans deux volumes qui s'intitulent « La vraie vie en Dieu » et qui ont reçu l'imprimatur et le nihil obstat, donc oui. Rien ne s'oppose. Mm-hmm. Et c'est un appel apostolique pour le monde entier à l'origine de 13 pèlerinages œcuméniques et interreligieux. Dans plus de 230 messages, Jésus confie à Vassula son chagrin face à la division de son Église et son ardent désir de voir les deux poumons de l'Est et de l'Ouest respirer ensemble.
Alors, une petite question sur ces deux poumons, Benoît. J'ai retrouvé cette expression dans l'encyclique de Saint Jean-Paul II. Et là, vous prenez aussi cette expression. Alors, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est Saint Jean-Paul II qui a eu le premier cette expression ou il l'a reprise de Vassula?
Alors, on a la première trace de cette expression chez un poète et théologien russe, Vladimir Soloviev, au XIXe siècle.
Oui. Oui.
Mais c'est Jean-Paul II qui a popularisé cette expression des deux poumons dans l'encyclique en 1995.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que Vassula Riden en parle, enfin Jésus en parle à Vassula Riden l'année d'après, comme un clin d'œil à Jean-Paul II.
Mais c'est excellent.
Jésus dit... Et toi, maison de l'Ouest, tu as réalisé à travers la lumière de mon esprit qu'un corps a besoin de ses deux poumons pour respirer librement et que mon corps est imparfait avec un seul poumon. Prie que mon esprit vivificateur vous réunisse ensemble, mais combien aurais-je à souffrir auparavant? Et là, Vassula met une note.
Oui.
En même temps, j'ai également compris combien aurons-nous à souffrir auparavant? Le « nous » désigne Jean-Paul II et Jésus.
D'accord.
Donc, c'est un échange.
Oui. Alors, pardon, je vous ai coupé.
Tout à fait. Donc,
il appelle les chrétiens à s'unir.
Tout à fait. Sans tarder, dans la diversité, chacune des trois églises gardera sa spécificité, ses richesses, et les échangera avec les deux autres autour d'un seul berger, le pape.
D'accord, très bien. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces messages?
Le 2 juin 1987, Jésus dit « Pour vous unir, vous devez tous plier. Vous devez tous être d'accord de plier en vous assouplissant. » Le 27 octobre 1987, « Orthodoxes, catholiques, protestants, vous m'appartenez tous. Vous êtes tous un à mes yeux. Je ne fais aucune distinction. » Le 13 avril 1991, l'unité se fera par le cœur. L'unité ne consiste pas à vous différencier sous mon saint nom. L'unité consiste à partager la sainte communion en croyant en ma présence réelle dans la sainte Eucharistie. L'unité, c'est vous donner vos richesses les uns aux autres.
Juste une petite parenthèse. La sainte communion, comment est-ce qu'on fait avec les protestants? Beaucoup de prières, si on
voilà, le chemin est différent pour chacun, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des progrès entre les orthodoxes et les catholiques. Maintenant,
oui.
Grâce à certains métropolites, les catholiques peuvent communier chez mm-hmm. les orthodoxes. Donc, il y a un progrès.
On avance.
Oui, on avance, exactement. Le 14 octobre 1991, Jésus dit « Unissez-vous, rassemblez-vous, invoquez mon nom ensemble ». Consacrez ensemble mon corps et mon sang. Humiliez-vous et pliez pour être capable de vous unir et de me glorifier. Vous parlez de l'esprit, mais vous n'agissez pas dans l'esprit. Vous parlez du chemin, mais vous rivalisez pour l'obstruer, comme vous me connaissez peu. Et le 15 juin 1995, l'humilité et l'amour sont les clés de l'unité. Ce n'est pas l'éloquence de la parole ni les longs discours qui les mèneront à l'unité. Ce n'est pas leur échange de louanges les uns envers les autres qui mèneront mon Église à être une. Toutes ces choses me lassent. C'est dans votre conversion que votre cœur m'entendra et mènera mon Église à être une, unifiant mon corps.
Alors, pourquoi... Ma question est un peu simplette, parce que ça semble évident. Je me dis, pourquoi ce désir de Jésus d'unifier les dates de Pâques? Oui, c'est forcément la date la plus importante pour nous.
Oui, avec Noël, tout à fait.
Oui.
Alors, c'est un des grands péchés contre l'unité de célébrer Pâques à des dates différentes.
Oui.
La résurrection est au centre de la foi chrétienne. Sans elle, il n'y a pas de christianisme. Pourtant, presque tous les ans, les églises de l'Est et de l'Ouest fêtent Pâques à des dates différentes.
Et oui.
Jésus donne à Vasula pour première mission d'unir les dates de Pâques.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux, trois maximum, parce que nous allons manquer de temps, citations qui vous semblent importantes qui auraient été données à Vasula à ce sujet ?
Alors, le 14 octobre 91, oui. En unifiant la date de Pâques, tu adouciras ma douleur et tu te réjouiras en moi et moi en toi et je rendrai la vue à une multitude. Chaque saison de Pâques, je dois boire de la coupe de votre division puisque cette coupe m'est forcée. Double est mon chagrin, double sont mes gémissements.
Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'il vit deux fois la passion.
Voilà, et je pensais, en préparant cette émission, sa mère aussi doit souffrir deux fois.
Ah, mais bien sûr, effectivement, oui. Oui. Alors, est-ce que l'Église prend en compte ces appels prophétiques ?
Tout à fait, France. Il y a des signes encourageants, car ces appels prophétiques ont touché le cœur de nombreux ecclésiastiques, comme Mgr Punt, évêque du diocèse de Haarlem-Amsterdam, qui déclare en 2011 « L'unification des dates de Pâques serait un merveilleux premier pas qui plairait beaucoup au cœur du Seigneur. Et notre temps en a un urgent besoin. Rome, je le sais, est très ouverte à cette idée. » C'est aussi le sens de la tribune intitulée « Pour une date de Pâques partagée par tous les chrétiens » publiée sur Figaro Vox le 21 avril 2023 par Mgr Dimitrios Ploumis, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, et Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, dont voici un extrait. Un colloque a eu lieu à Alep en 2017 sous l'égide du Conseil œcuménique des Églises. Il a été proposé d'en revenir tout simplement au principe du Concile de Nicée, c'est-à-dire de célébrer Pâques le dimanche qui suit la première lune advenant pendant ou après l'équinoxe de printemps, en se basant sur le méridien de Jérusalem. Certes, une telle décision bouleverserait les calendriers déjà préprogrammés, mais constituerait un magnifique signe d'unité. Le 20 avril, en effet, dimanche dernier, Pâques, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'occasion de la célébration œcuménique du mystère de Pâques, Mgr Rouget déclare « Il faut passer de la discussion à la communion ». Nos frères et sœurs orthodoxes nous rappellent à juste titre que la détermination de la date de Pâques n'est pas un sujet annexe du Concile de Nicée, mais bien une manière décisive de reconnaître et d'annoncer en vérité le Fils consubstantiel au Père. Avant qu'une solution définitive et universelle soit trouvée aux complications du calendrier, pourquoi ne nous engagerions-nous pas à célébrer la résurrection ensemble chaque année, d'une manière ou d'une autre, dans un lieu ou un autre, le premier dimanche commun du temps pascal ? En raison de nos divisions, les yeux de nos contemporains, comme ceux des disciples d'Emmaüs au début du chemin, sont empêchés de reconnaître le corps du Christ dans son authenticité et sa beauté. Pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent dans la grâce de l'auberge, nous avons à progresser dans la fraction de nos cœurs, c'est-à-dire dans le dépassement de nos préjugés, de nos peurs, de nos incrédulités. Le même jour, à Notre-Dame de Paris, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, demande au Seigneur qu'il veuille bien écouter notre demande pour que le temps où les chrétiens célébreront tous Pâques ensemble soit un temps assez rapproché de nous. Et le 25 janvier 2025, à la basilique Saint-Paul hors les murs, le pape François s'est exprimé en ces termes. L'Église catholique est disposée à accepter la date que tous veulent, une date de l'unité. De manière providentielle, Pâques sera célébrée cette année le même jour dans les calendriers grégorien et julien, justement au cours de cet anniversaire œcuménique, c'est-à-dire les 1700 ans du Concile de Nicée. Je renouvelle mon appel pour que cette coïncidence serve de rappel à tous les chrétiens à faire un pas décisif vers l'unité, et ce, autour d'une date commune pour Pâques.
Alors Benoît, il nous reste 2 minutes. Malheureusement, le temps passe très très vite. Je voudrais quand même dire que pour en savoir plus sur Vasula et la vraie vie en Dieu, on peut aller sur un dossier qui lui est consacré sur le site de l'association 1000 raisons de croire qui dépend de l'association Marie de Nazareth. Donc allez voir sur 1000 raisons de croire et vous tapez aussi Vasula et la vraie vie en Dieu, même en admettant que ça vous y arriverait directement. J'ai juste une question avec une réponse très rapide, Benoît. Bien évidemment, le pape François connaissait les messages de Vasula.
Tout à fait, parce qu'il l'avait rencontré au début des années, en 2010, quand il était encore archevêque de Buenos Aires. Oui. Et il l'avait reçu, il l'avait échangé, donc il était tout à fait conscient, il connaissait tout à fait les messages de Jésus.
Donc, comme il y a eu un Nikilopsat, on peut tout à fait avoir confiance dans ses écrits. Donc, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas Vassula, c'est vraiment une contemporaine, puisqu'elle est décédée à l'automne dernier. Des suites d'une opération. Et il y avait eu beaucoup d'appels à la prière, je me souviens, à ce moment-là. Ce qui a fait que certains l'ont même découverte à ce moment-là, en se demandant, mais qui est-ce? Donc, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment à y aller. Benoît de Florac, merci beaucoup.
Merci, France.
Pour votre fidélité. Et on se revoit très bientôt pour, je l'espère, parler d'un autre sujet qui vous tient à cœur. Maria Valtorta, bonne semaine.
Merci, bonne semaine.